Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Podcast is a new radio.
Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fais-tu frette. Déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujets, et bah pour le coup, j'en connais qui se sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle, est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Alors vous savez quoi les amis, de vous à moi, vous pouvez encore vous attendre à quelques saisons en plus de Fais-tu frette. Mon nom est Jean-Michel Lhomme et avec ce podcast je suis vraiment, mais alors vraiment heureux de vous faire découvrir mon nouveau chez moi, le Québec. Bonne écoute. L'une des rares choses que l'on connaît du Québec avant même d'y avoir posé le premier orteil, c'est qu'ici les insultes et autres jurons sont d'origine religieuse. Oreilles chastes et pieuses, baissez le volume, car ce dont je parle, ce sont les tabarnaks, Chris, hostie et autres calices qui ponctuent régulièrement les phrases de l'automobiliste québécois à qui on vient de faire une queue de poisson. D'ailleurs ici, on ne dit pas juré, on dit sacré. La religion est un élément clé de la société québécoise. Elle est présente partout, pour le meilleur, pour le pire et pour de vains observateurs, car, comme disait Coluche, la religion au Québec, c'est un peu comme le sucre dans le lait chaud. Il est partout, mais plus on le cherche, et moins on le trouve. La religion, le rapport aux religions, voici l'une des grandes complexités de la belle province. Alors pour en parler, j'ai invité celle qui, de mon modeste point de vue, est l'une des plus fines analyses de la société québécoise, à savoir Valérie Lyon. Aujourd'hui journaliste au Pèlerin Magazine, c'est une amoureuse du Québec qui décrypte l'actualité au travers d'une infolette que je ne saurais trop vous recommander. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, repentez-vous, gentes dames, et allez vous abonner illico presto à Attache Tatuc. Salut Valérie.
Bonjour Jean-Michel.
Comment vas-tu?
Très bien, très heureuse d'être, de faire un pont sur l'océan Atlantique entre Montréal et Paris.
Oui, parce que effectivement, tu es à Paris, tu es une vraie amoureuse, une grande connaisseuse du Canada et du Québec, mais tu es à Paris. C'est bien parce que comme ça, tu vois, on fait vraiment la jonction parfaite. Alors, même si tu es à Paris, la première question que j'aimerais te poser, elle a pas forcément grand-chose à voir avec la religion, quoique, mais c'est quoi donc ton histoire à toi avec le Québec?
Alors,
ou le Canada d'ailleurs.
Mon histoire à moi, elle a commencé avec le Québec, elle s'est élargie après au Canada, et elle a commencé il y a pile 30 ans, en juin 92, grâce à une bourse de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, une bourse que j'ai décrochée à l'issue de mon école de journalisme. Et grâce à cette bourse, j'avais le billet d'avion et les deux premières nuits d'hôtel payées à Montréal et un accès à un grand forum sur les médias. Et donc, j'ai débarqué un jour de juin à Montréal avec une amie de la même promo d'école de journalisme qui avait décroché la même bourse sur le boulevard René Lévesque Est, dans le Neuf Hôtel, où on a passé deux nuits. Et ensuite, la ville était à nous. On était un mois avant le fameux 1er juillet, hein, le fameux jour du déménagement. On a réussi à trouver un appartement que des locataires avaient libéré un peu plus tôt que la date fatidique. On s'est installé dans la ville, on a mis une ligne téléphonique et puis... en avant, on est parti faire nos rendez-vous, nos reportages, etc. Et ça a été pour moi un vrai coup de cœur. Alors évidemment, Montréal l'été, c'est toujours le coup de cœur, hein, quand la ville explose après les longs mois d'hiver, on connaît bien ça. Mais là, en plus, il y avait une particularité, c'est que Montréal fêtait ses 350 ans. C'était le 350e anniversaire de la ville. Et malgré la crise économique qui, à l'époque, frappait quand même pas mal la province, le vieux Montréal était presque en déshérence, il y avait une animation liée à ces 350 ans qui redoublait par rapport aux étés traditionnels, j'ai envie de dire, à Montréal. Donc, c'était bouillonnant, c'était rempli d'optimisme, de culture plus populaire qui s'exprimait à travers le cirque, à travers des spectacles. Enfin, c'était incroyable. Et voilà, ça a été un coup de cœur. Et quand j'ai repris l'avion, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je revienne. Et donc après, je n'ai eu de cesse de revenir pour des reportages, mais aussi à titre personnel pour explorer davantage le Québec et ensuite le reste du Canada.
Ouais, en gros, tu as une carte de miles entre Paris et Montréal qui est assez incroyable.
On peut le dire comme ça, même si le Covid a un peu freiné, voilà. Ces dernières années, voilà.
Forcément, mais bon, allez, on va dire que c'est derrière nous tout ça. Dis-moi, est-ce que lors de cette première visite et des suivantes, comme moi, un petit peu le fait religieux, c'est pas le bon mot, mais la présence de l'histoire religieuse t'a un petit peu sauté aux yeux. Moi, ça m'a sauté aux yeux parce que il y a le Saint-Laurent, on prend la rue Sainte-Catherine, accessoirement, j'habite à Saint-Constant. Les saints, les... ils sont partout. Évidemment, je le parlais en introduction, les sacres, très vite, qui, même s'ils sont prononcés différemment ici, qu'il faut surtout pas dire tabernacle, sinon ils nous... Oh. Voilà, c'est bien tabarnak. Ceci étant dit, tabarnak, ça vient de tabernacle. Est-ce que ça t'a sauté aux yeux, tout ça, tout de suite, ou non, c'est plutôt quand t'as commencé à gratter un petit peu l'histoire du pays que ça t'est apparu?
Oui, c'est plutôt quand j'ai commencé à gratter l'histoire, parce que c'est pas ça qui m'a sauté aux yeux en premier quand je suis arrivée. Oui. J'avais 24 ans. Ce qui m'a sauté aux yeux, ce qui m'a pris, c'est l'énergie qui se dégageait de la ville, des échanges que j'avais avec les gens que je rencontrais, etc. Je dirais, s'il y a une chose qui m'a sauté aux yeux, très vite, pendant ce premier séjour au Québec, on était 2 ans après la crise d'Oka, donc on était en 92, crise d'Oka 90, et ce qui m'a sauté aux yeux très vite, c'est d'entendre les Québécois francophones me dire que ils résistaient en tant que minorité dans un océan anglophone, etc., et de découvrir qu'en fait, eux-mêmes avaient leur propre minorité, qu'ils n'arrivaient pas à gérer, qu'ils ne savaient pas gérer, qui étaient les autochtones. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappée quand je suis arrivée, la première fois que je suis venue au Québec. Et d'ailleurs, j'ai fait un reportage à Kanawake, grâce à une association qui travaillait dans cette réserve. Et ça m'avait vraiment... et d'ailleurs, c'est ce qui m'a donné aussi envie, parce que quelque part, ça montrait tout de suite la complexité de l'identité. De l'identité québécoise et de l'identité canadienne au-delà, c'était ce rapport entre ce qu'on appelle les Québécois de souche et les autochtones. Et là, je me suis dit, il y a un nœud, quoi, il y a quelque chose à explorer. Et c'est fou parce que là, on est 30 ans plus tard et ça explose complètement. depuis quelques années seulement, en fait.
C'est tout récent. Et moi, c'est comme toi, exactement comme toi, c'est une réalité dont, à laquelle j'étais passé, mais alors complètement à côté, avant d'arriver. Quand je pensais Québec, et j'avais beau être venu, mais très honnêtement, quand j'étais venu, je ne m'étais pas intéressé à l'histoire, à la société, à tout ça. Pour moi, le Québec, hein, oui, il y avait les anglophones, il y avait les francophones. Mais ça s'arrêtait là. Je savais que déjà ça, c'était compliqué, mais ça s'arrêtait là. Et effectivement, la réalité autochtone et cette difficulté à la gérer, en tout cas à l'appréhender, parce que c'est pas forcément la gérer, pas forcément le bon mot, à l'appréhender, à la faire vivre. J'étais bien passé à côté, et ouais, quand tu dis que ça explose depuis quelques années, malheureusement, le mot explosion est de bon aloi.
Tout à fait. Donc la religion, je l'ai découvert, je dirais plus en voilà en rentrant dans l'histoire du pays, en voilà c'est là que j'ai réalisé l'importance que ça avait eu et la façon dont ça avait dégringolé d'un coup. C'est-à-dire que, et ça on me l'a raconté, enfin la façon dont dans les années 60, au moment de la Révolution tranquille, la façon dont les églises se sont vidées d'un coup, mais vraiment d'un coup, quoi. C'est-à-dire que en France, ça s'est passé très progressivement, ce déclin de la pratique religieuse, ça a été très très progressif, très lent. Au Québec, ça a été brutal.
Et pourquoi ?
Ben, je pense qu'en fait, ça a participé, c'est-à-dire que cette fameuse Révolution tranquille, que d'autres ont appelé l'évolution tapageuse, parce que c'était pas si tranquille que ça, d'une certaine façon, c'est qu'en l'espace d'une décennie, les francophones se sont émancipés d'une double tutelle, la tutelle anglophone et la tutelle de l'Église. Et en fait, plus qu'une tutelle, c'était une domination, c'était quelque chose qui les entravait, qui avait fini par les entraver, en tout cas, si on parle de l'Église. Comme, alors que l'Église a été à un moment le moteur du développement de la société francophone, elle était devenue finalement son frein dans un développement moderne, en fait. Et donc, il y a eu une espèce, tout a été envoyé par-dessus bord en même temps, en fait, dans cette révolution tranquille et dans la volonté de se libérer de toute... Comment dire, de tout ordre qui serait venu d'autre part que de ce que voulait l'individu, en fait.
Je comprends. Alors, comment est-ce que je vais formuler ma question intelligemment ? On en dit beaucoup, ça. Mais dans un précédent épisode, dans l'un des tout premiers d'ailleurs, sur l'histoire du Québec, avec Éric Bédard, historien, excellent historien, il m'expliquait qu'en fait, que la religion et l'Église au Québec, avait pris une place peut-être encore plus forte qu'ailleurs pendant des années, à cause de la France et à cause des rois de France qui ont eu de cesse que de venir et de se retirer du Québec. Quand ça les intéressait, parce que ça correspondait à des enjeux, ils venaient, ils s'implantaient, ils envoyaient des hommes pour essayer de légiférer tout ça, de l'organiser, on va dire. Et puis, quand ça les amusait plus ou qu'il y avait d'autres terrains de bataille, d'autres terrains de conquête qui étaient ailleurs en Europe, ils se retiraient. Et là, en gros, ils sous-traitaient, si je peux dire ça comme ça, ça fait très commercial, mais ils sous-traitaient carrément la gestion et le développement du Québec à l'Église, qui de coup avait un rôle qui dépassait largement le côté moral, spirituel et religieux, puisque c'était aussi un rôle de gouvernement et que c'est peut-être compliqué à appréhender pour nous, mais que la place de l'Église au Québec avait été beaucoup plus importante que dans beaucoup de pays.
Oui, mais c'est vrai que ça a été l'élément de stabilité, en fait, pour la communauté francophone, pour les colons qui se sont installés, ça a été l'élément de stabilité, l'institution permanente en fait. Ça a été effectivement l'institution permanente et ça a été celle qui, alors il y avait évidemment les missionnaires hein, qui étaient là justement pour évangéliser les autochtones, mais qui ont quand même été ceux qui ont créé les premiers hôpitaux, les premières écoles, c'est-à-dire tout ce qui a donné finalement à la communauté les moyens de survivre en fait, ça a été apporté par l'Église. En termes institutionnels. Donc, effectivement, ça avait pris une place. Et puis ensuite, enfin, voilà, on va très vite, mais la conquête anglaise, les fameuses plaines d'Abraham, la bataille des plaines d'Abraham perdues, etc., a fait que les francophones donc se sont retrouvés minoritaires dans le Canada uni, enfin quand celui-ci s'est constitué, et que finalement leur seul moyen de résister, c'était de faire des enfants, la fameuse revanche des berceaux. Et là aussi, l'Église a joué un rôle très important parce que finalement, bah, faire des enfants, c'était continuer à faire grandir la communauté des croyants, en fait. Donc, c'était voilà, ça a été la résistance. Elle s'est faite à travers toutes ces nouvelles bouches à nourrir, mais qui étaient aussi des nouveaux fidèles. Pour l'Église, en fait. Et c'était comme ça que le fait francophone pouvait persister. Et le fait francophone était complètement associé au fait catholique, finalement, puisque les anglophones, eux, étaient anglicans.
Donc c'est grâce à l'Église, en fait, que ce Québec francophone qu'on connaît aujourd'hui, et puis qui, bah, nous attire tant, puisqu'on parle souvent de nos cousins québécois, bah c'est grâce à l'Église aujourd'hui qu'il existe encore et qu'il n'a pas été happé, avalé par les vainqueurs des plaines d'Abraham.
Bah en tout cas au XVIIIe et XIXe siècle, en grande partie, en effet, en grande partie. Et puis il y a eu ensuite au cours du XXe siècle, bah toute cette cette période d'une domination anglophone, notamment sur les affaires économiques, qui a maintenu les francophones comme un petit peuple, hein, le petit, toujours petit. Et là, pour le coup, où l'Église a pas forcément été, a eu plutôt un réflexe conservateur finalement, d'essayer de garder ses ouailles, etc. Au moment de la Révolution tranquille, le sentiment, c'était un État moderne, c'est forcément un État et une société moderne, c'est une société qui s'émancipe de tous ceux qui veulent dicter ce qu'on doit faire, que ce soit l'Église ou le patronat anglophone.
Oui. Et concernant l'Église, bah ça, c'est à ce moment-là qu'émergent les sacres. Quand on veut.
Oui. Et alors, quand tu disais comment moi j'ai pris conscience de l'importance de l'Église, ou plutôt de ce qui se passait autour de ça. Alors là, je me souviens très bien. C'est pas la première fois que je suis venue à Montréal, mais c'est dans les années qui ont suivi. Tu parlais des églises à vendre, et je me souviens à l'angle, si je me trompe pas. De Saint-Laurent et Sainte-Zotique, il y avait une magnifique église qui a été à vendre et qui a été transformée en condominium. Et si tu veux, alors moi, la petite Française qui a vu ça, c'est quelque chose d'inimaginable chez nous en France. C'est-à-dire que une église, c'est un patrimoine qu'on entretient, même si aujourd'hui les églises sont très peu remplies en France au moment des offices. Mais et de voir une église transformée en appartement, alors ça a été pour moi un choc, et c'était tellement intriguant. J'avais jamais vu ça nulle part ailleurs, de transformer une église en appartement.
Et c'est vrai que c'est l'une des grosses différences, parce qu'on est la France et le Québec, deux pays où la religion catholique a été très importante pendant très longtemps, a été structurante pour le développement de notre culture, de la communauté. Mais effectivement, là où la France, alors que les deux pays d'ailleurs aujourd'hui pratiquent, je parle Québec, pas Canada, Québec et France me semblent pratiquer une vision de la laïcité assez similaire. On a en France quand même un rapport avec l'Église et au patrimoine ecclésiastique un certain, j'allais dire, respect, c'est-à-dire que l'État français continue à financer ou à cofinancer la rénovation des églises, que ça fait partie du patrimoine. Alors ici, par contre, que nenni, pas du tout. Et effectivement, les églises sont à vendre, certaines sont réhabilitées. Moi, l'un des tout premiers concerts que j'ai pu faire ici, en sortant de la période post-Covid, c'était un concert de Corneille et c'était dans une église dans Montréal. Super concert au passage. Ouais. J'ai écrit quelques petits articles à droite et à gauche, et notamment, pas très loin de Saint-Zotique, dans une communauté juste à côté, une église qui venait d'être vendue et sur laquelle il devait y avoir une cérémonie de désacralisation, si je te dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Mais effectivement, des églises à vendre, mais pour refaire tout ou n'importe quoi, il y en a plein. C'est-à-dire, on sent quand même qu'il y a un rapport avec la religion qui a été... comment dire ? C'est comme si, j'ai l'impression, comme s'ils voulaient, les Québécois, j'entends, faire table rase du passé, presque dans un esprit, j'allais dire, de cancel culture. Et Dieu sait que c'est pas quelque chose qui me branche, mais tu vois, on veut l'effacer. Alors que, en France, c'est quelque chose qu'on va peut-être plutôt entretenir. Là, c'est, allez, les églises, c'est pas grave, c'est les salles de concert. Nos problèmes, c'est sympa, ça fait joli, c'est une belle architecture.
Mais... Oui, non, mais ça, c'est vrai que, alors, c'est peut-être aussi quelque part, j'ai envie de dire, le privilège d'un pays jeune qui finalement se dit, bon,
c'est vrai, mais...
nos églises, elles ont 200 ans. Donc, allez, 300 ans parfois, grand maximum 400. Quand nous, on a des églises qui datent du Moyen-Âge et voilà. Donc, il y a effectivement pas la même perception par rapport à la profondeur de l'histoire. Et puis il y a quand même aussi surtout cette approche très qui est de regarder devant plutôt que de regarder derrière, hein. Ça c'est quand même quelque chose,
ouais,
ça, d'une façon générale, qui moi me frappe beaucoup c'est une des caractéristiques. Et quand on demande pourquoi par exemple les Français ils sont tellement attirés par le Québec, le Canada, pour moi il y a des raisons un peu fondamentales. Il y a ce côté le fait de préférer complimenter plutôt que critiquer, par exemple. Nous on est les rois de la critique en France, et au Canada, au Québec, voilà, si quelque chose se passe bien, on va le dire, on va le formuler, etc. Et puis, on regarde toujours plus devant que derrière. Donc, à partir du moment où on décide que, effectivement, on fait table rase, comme tu dis, mais on s'embarrasse pas, en fait, on se met aucun frein, finalement. On se met aucun frein.
Mais c'est marrant, j'y avais pas du tout pensé en préparant l'émission, mais ce que tu dis résonne complètement. Je pense à ma petite dernière, donc, qui est à l'école ici au Québec. Et effectivement, par rapport à la France, ce que j'ai connu et ce qu'elle-même a connu, c'est vrai que le rôle, la place que prend l'enseignant, le prof d'histoire, a rien à voir, mais alors rien à voir avec celle qu'on connaît en France, où il est un peu sacralisé, c'est un peu the prof des profs, hein, voilà. Ok, il est barbu, voilà, mais désolé pour l'image d'Épinal, mais voilà, il y a un respect, une espèce de dévotion, quelque chose, je sais pas, quelque chose de très fort. Ici, pas du tout. Hein. J'allais dire, c'est un prof lambda et déjà on lui fait faire pas mal d'autres trucs et pas que l'histoire et la géographie. Il y a pas mal d'autres choses dans l'univers social qui rentrent dans son scope et c'est pas du tout le même rapport. Effectivement, en fait, ils n'ont pas du tout le même rapport à l'histoire.
Pas du tout, pas du tout. Ouais. Donc, voilà, c'est probablement quelque chose de qui a été plus facile pour eux, même si reste quand même ce fond de catholicisme culturel qui est quand même très présent, alors dont on voit les traces à travers, comme tu le disais, des noms, rien que des noms de des villages, etc. Les églises qu'on voit quand même partout, dès que tu te dans le moindre hameau, etc. Et puis quand même, parce que du coup, je me suis un petit peu renseignée, parce que je me suis dit, tiens, ça fait un moment que je me suis pas penchée quand même sur ce sujet-là, que j'avais regardé quand j'avais écrit mon bouquin, mais ça date d'il y a un certain temps. C'est que il y a quand même 40% au Québec, enfin c'est un sondage qui date d'il y a un an, hein, de l'automne 2021, c'était un sondage Léger, de la fameuse firme Léger, qui disait que un Québécois sur deux ne croit pas en Dieu. Bon, donc là, les choses sont quand même
c'est clair.
Assez claires. Mais que néanmoins, 40% disent déclarer une affiliation religieuse. Quand même. Donc, mais les convictions religieuses et spirituelles sont pas importantes. Mais ils déclarent quand même une affiliation religieuse et majoritairement, ils vont déclarer une affiliation catholique. En fait, ils vont déclarer une affiliation catholique. Mais c'est presque, on a envie de dire. On se demande si c'est pas de l'ordre du folklore finalement. Enfin, du folklore ou de voilà, bah effectivement, bon, ça fait partie de notre culture, donc ça, il reste un petit bout de quelque chose quelque part. Mais il faut quand même se souvenir, on évoquait en aparté avant de démarrer cet échange la visite du pape François cet été, et on y reviendra peut-être pour les excuses aux autochtones, mais il faut se souvenir quand même que quand Jean-Paul II, qui est venu deux fois au Canada, quand il est venu chanter dans le stade de Montréal, c'était, alors ça nous remonte à les années 80, si je me trompe pas, il a chanté dans un stade plein, et c'est là que Céline Dion s'est produit pour la première fois devant une masse de spectateurs, puisqu'elle elle a chanté pour le pape, et elle a un peu, ça a été un peu une espèce de révélation. Les choses, il y a eu les années 60, la Révolution tranquille avec cette rupture. Ensuite, les choses se sont installées comme un pays sécularisé finalement. Et puis elles se sont encore accélérées depuis une vingtaine d'années, parce que toujours selon des chiffres que j'ai retrouvés, en 2001, donc il y a un peu plus de, il y a presque 25 ans, 75% des enfants nés au Québec étaient encore baptisés.
Ah oui.
Mais aujourd'hui, c'est la moitié. Donc, ça va très vite. Et donc, ça a été très vite, notamment sur les mariages, parce que je me souviens qu'on m'avait raconté en me disant quand du jour au lendemain, enfin, c'était une image, mais c'était vraiment ça, les églises se sont vidées, etc. L'union libre a explosé au Québec bien avant la France. Bien avant la France. Les gens se sont mis à vivre en couple sans passer devant monsieur le curé. Beaucoup plus et bien avant le phénomène en France, si tu veux. Mais voilà, après il y a eu des paliers comme ça de descente en fait de l'influence culturelle, on va dire, de l'influence culturelle du catholicisme.
Et pourtant les stigmates sont vraiment là, parce que ce que je veux dire aux auditeurs qui écoutent ce balado et qui sont pas forcément venus, c'est que je suis sûr de dire que je suis pas complètement fou. Je n'exagère pas. Et si vous êtes en France ou même globalement en Europe, où vous avez aussi un poids et une présence de la culture catholique assez forte, vous dites ouais, pourquoi il nous en fait une émission, celui-ci, il exagère un petit peu. Mais je vous assure, moi j'habite à Saint-Constant. À Saint-Constant, j'ai la rue Sainte-Catherine qui est juste à côté. Mais la ville d'à côté s'appelle Sainte-Catherine. Si je vais dans Montréal, je vais rue Sainte-Catherine, qui est l'une des plus grandes rues. Les visages autour, mis à part Sainte-Catherine, s'appellent Saint-Rémy, Saint-Ésidore, Saint-Hubert. C'est-à-dire que les saints sont absolument pas... On s'en rend pas forcément compte au début. On pense Montréal, Québec, qui sont deux noms d'origine autochtone. Mais derrière ça, on voit bien que les routes, les villages, les églises ont toutes été façonnées par l'Église, en fait. Et c'est pour ça qu'on leur a donné les noms, à tel point d'ailleurs que ça crée des ambiguïtés, parce qu'à un moment donné, visiblement, on devait manquer un peu de saints. Et on se retrouve effectivement... moi, ça m'est arrivé, on m'a donné un rendez-vous à Saint-Hubert. Donc, je suis allé à Saint-Hubert, et en fait, on m'attendait rue Saint-Hubert à Montréal.
À Montréal, ouais.
Mais ça peut paraître bête, mais c'est juste pour montrer à quel point ça a été quand même... Le pays a été façonné comme ça, Et par ça, et à quel point ce que tu disais, ce détachement, et là, on en vient, parce que je vais l'illustrer avec ça, la visite du pape François, moi, je suis tombé des nues. Je suis tombé des nues parce que, alors, je savais, et ça, on y viendra un tout petit peu juste après, d'ailleurs, rapport avec les autochtones, mais il y avait un sujet particulier à cette venue. Ceci étant dit, il me semblait, en tant qu'observateur de l'actualité internationale, que le pape François était un pape, on va dire, plutôt assez populaire, considéré comme réformiste, on va dire autant que peut l'être un pape, mais bon, quand même, plutôt ouvert à deux, trois trucs, bien aimé de la population. Donc, malgré tout, même si je voyais bien que les églises ici n'étaient pas franchement très pleines, je m'attendais à ce qu'il y ait une certaine ferveur populaire, parce que, bah, quand même, c'est quand même l'un des grands personnages mondiaux. Que nenni. Le pape arrive sur les plaines d'Abraham à Québec, là où deux semaines avant, il y avait le Festival de Québec avec Maroon 5 et les Foo Fighters qui réunissaient chacun 150 000 personnes. Et de l'avis de tout le monde, le pape a fait 4 000 personnes, dont à peu près 2 000, 2500 qui étaient des personnels de sécurité ou de l'organisation. C'était très étonnant de voir un tel... Mais c'est... Et en plus, j'ai même pas senti un désamour. Non. J'ai senti un je m'en foutisme.
C'est ça. Pas d'intérêt pour...
Ouais. Okay, bah il est...
Alors, j'aurais dû... il me semble que cette visite du pape, quelque part, était beaucoup plus, entre guillemets, politique que spirituelle. Pour l'enjeu, justement, par rapport aux communautés autochtones, on y reviendra. Et peut-être aussi parce que, quelque part, de toute façon, il savait qu'il n'a pas vraiment un public spirituel au Canada. Mais c'est vrai, et juste pour reboucler sur ce que tu disais par rapport à tous les saints, moi, ce qui me frappe quand même, c'est que dans une ville comme Montréal, il y a deux choses qui dominent la ville. Il y a le Mont-Royal, mais il y a l'oratoire Saint-Joseph quand même, voilà. qui est un truc incroyable quand on va le visiter. Enfin, je veux dire, c'est quand même... on ne peut pas le rater. Sur le Mont-Royal, il y a la fameuse croix lumineuse qui, donc, quand tu regardes Montréal la nuit, tu la vois forcément. Et puis, à côté d'un des hôtels les plus connus, The Queen Elizabeth, il y a quand même une église qui est la réplique de Saint-Pierre de Rome, en plus petit. Donc, voilà, il y a quand même des choses qui sont... mais effectivement, en même temps, les gens passent à côté, et c'est un peu ce que tu dis par rapport au pape, comme s'ils ne le voyaient plus ou ne voulaient plus le voir. Enfin, ils l'ont sorti de leur... ils l'ont sorti de leur champ, en fait. Ils l'ont sorti de leur champ. Et c'est vrai que la visite du pape, c'était un enjeu avant tout vis-à-vis des communautés autochtones, et je dis un enjeu politique aussi, parce que faut quand même, dans cette histoire des pensionnats autochtones, ce fameux je sais pas comment, c'est même pas un scandale, c'est plus que ça, oui, le drame des pensionnats autochtones, il faut quand même se dire que tout est parti du gouvernement fédéral. Donc c'est d'abord une décision d'un gouvernement avec la loi sur les Indiens, qui ce fameux premier ministre qui dit qu'il veut tuer l'Indien en l'enfant. La décision assumée, complètement pas du tout sous-jacente, elle est publique, elle est de mener une politique d'assimilation. Et de confier cette politique d'assimilation, par délégation en quelque sorte, aux congrégations religieuses qui tiennent l'éducation dans le pays, d'une certaine façon. Et donc là, on a une espèce de délégation à l'Église d'une politique fédérale, en fait.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que... Et, alors là, c'était pas avec le gouvernement français pour le coup, c'était le gouvernement canadien. Mais on a fait jouer un rôle à l'Église qui allait bien au-delà de son rôle, normal de religion, puisqu'il y avait une politique, tu le dis très bien, une politique fédérale, accessoirement légèrement discutable, mais ceci dit, voilà, une politique fédérale, et on a expliqué, on a gentiment expliqué à l'Église, il y avait visiblement un intérêt, mais... Vous allez vous en occuper. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette histoire, hormis évidemment toutes les horreurs qu'on a découvertes après, mais J'ai lu à peu près tous les bouquins de Michel Jean et
passionnant.
Passionnant. Mmh. Et en fait, une des choses qui décrit très très bien dans la brutalité qu'ont vécu les familles autochtones lorsque, évidemment, ils étaient au courant de rien. Hein, parce que, évidemment, ils vivaient à un endroit l'été, un autre endroit l'hiver. Enfin, ils étaient assez déconnectés de toute cette politique canadienne, autre chose. Ils avaient leur vie autonome. Un jour, ils découvrent au pied de chez eux deux gendarmes, une gendarmerie créée pour l'occasion pour ça, qui explique, ben voilà, on récupère vos enfants là tout de suite maintenant et on les embarque. Mais vous rassurez-vous, on va les éduquer. Et ce qu'il explique très bien, c'est que la seule et unique raison pour laquelle les Autochtones ont accepté et ne se sont pas révoltés, c'était grâce à la présence de l'Église.
Ils faisaient confiance
et c'était le garant. Donc la mort, c'est très bien décrit dans le livre, la mort dans l'âme, en versant des litres et des litres de larmes, tout ce qu'on veut, ils disaient quand même, non, l'Église est là.
On fait confiance. Hey, c'est terrible, c'est pour ça que il y a une double trahison dans cette affaire qui est vraiment terrible, parce qu'effectivement, et ça, Michel Jean, dont j'ai aussi chroniqué les livres que j'ai lus et qui raconte vraiment, c'est poignant la façon dont il raconte ces histoires que certains membres de sa famille lui ont directement raconté. Ce qu'explique très bien Michel Jean, c'est que finalement, quand justement les religieux ont débarqué dans ce qui est devenu la Nouvelle-France et ont rencontré les peuples des Premières Nations qui étaient là, il y a eu une tentative d'évangélisation, mais qui n'a pas été, totalement refusée par les Autochtones, parce que finalement, les Autochtones développent énormément de croyances, ont une grande spiritualité et finalement ont accueilli d'une certaine façon cette nouvelle croyance en l'intégrant. C'était une croyance en plus qui est venue et puis on le sait aussi, c'est-à-dire que ça a été une stratégie aussi pour les francophones versus les anglophones d'essayer de passer certaines alliances avec les peuples autochtones, notamment pour des raisons économiques, évidemment la fourrure, etc., mais pas que, aussi pour des raisons de survie. Enfin, on le sait pas forcément, mais il y a eu énormément de métissage en fait entre les colons et les peuples autochtones. Donc il y a eu une sorte de croisement, d'interpénétration des croyances, etc. Et par exemple, Michel Jean lui-même me racontait que Sainte-Anne-de-Beaupré, ce fameux lieu de pèlerinage, cette église qui est juste à côté de la ville de Québec, le fameux pèlerinage de Sainte-Anne, qui est un pèlerinage important pour les Autochtones, parce que Sainte-Anne, c'est la grand-mère, en fait, c'est la figure de la grand-mère, qui est une figure très importante chez les Autochtones, c'est l'aîné, évidemment, c'est la sagesse, etc. Mais au pèlerinage de Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-Beaupré, il y a toujours énormément d'Autochtones, alors qu'il n'y a pas un Québécois de souche, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, c'est... Donc, il y avait effectivement une sorte de confiance qui s'était installée entre les Autochtones et les religieux, certains religieux en tout cas, et ce qui a fait effectivement que certains ont laissé partir leurs enfants en se disant si le prêtre nous dit vas-y, ça ira quoi, nos enfants reviendront et on s'occupera bien d'eux. Et en fait, évidemment, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et donc ça, c'est terrible dans l'histoire. Vraiment, je trouve cette espèce de double trahison de la part de l'institution religieuse et de l'institution politique quand même aussi. Et là, il y a un jeu quand même. Pendant que le pape fait des excuses, le gouvernement fédéral se fait tout petit quand même. Hein. Donc, même si Stephen Harper en 2008, puis Justin Trudeau en 2015, au moment de la remise du rapport, du fameux rapport de la commission Vérité et Réconciliation, ils ont prononcé des excuses officielles. Ça a été dit, ça a été fait. Mais les réparations, elles tardent énormément à venir.
Même même la, je veux dire, la matérialisation. Ce que Michel Jean a expliqué, je crois, je sais plus si c'est dans un livre, je crois que c'est plutôt dans une interview, mais c'est que, effectivement, en 2015, quand il y a ce rapport qui est remis à Justin Trudeau, le rapport dit explicitement qu'ils estiment qu'il y a entre 4000 et 6000 enfants qui ont perdu la vie dans les pensionnats autochtones et dont les corps n'ont jamais été restitués aux familles.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pour autant, aucune recherche, rien n'a été entrepris jusqu'à ce que, alors je ne sais plus si c'était par hasard ou trop, mais que les premiers corps aient été retrouvés à proximité d'un ancien pensionnat, des corps d'enfants, et que là, alors qu'on le savait, c'était documenté, c'est sérieusement annoncé depuis 2015, mais c'était passé, oui, on avait fait des excuses, mais ça n'a pas ému plus la population que ça. Alors là, tout d'un coup, on avait trouvé des corps, et là, c'est devenu un phénomène, un problème majeur, un fait majeur. En fait, c'est comme si, là, c'était vrai.
Bah, c'est devenu une réalité pour la société canadienne avec la fameuse découverte de Kamloops en Colombie-Britannique. Et puis après, il y a eu la Saskatchewan. Et puis, et effectivement, tu as raison, c'est devenu une réalité à ce moment-là, avec ces fausses communes complètement atroces. Enfin, c'est, mais c'est vrai que c'est à la fois, ça montre la complexité de la relation entre, j'ai envie de dire, la société québécoise et la religion, et les églises, parce que les églises ont apporté des choses dans la structuration, on l'a dit, de la société, etc. Et puis, elles ont été le bras armé d'une politique d'assimilation terrifiante. Derrière, j'ai envie de dire que ce pays, le Canada, qui à l'international se dit un pays d'accueil, de tolérance, d'acceptation de la différence, cette histoire-là lui revient en boomerang d'une façon mais terrible, terrible.
C'est fou. Moi, je vais te donner une petite histoire très personnelle. Tu le vois derrière moi, j'ai une photo qui illustre mon bureau. Je viens du centre de la France, un petit village en Charente, qui n'est pas très loin d'Oradour-sur-Glane. Voilà. Une histoire personnelle. Et avant de partir au Québec, j'ai emmené toute ma petite famille à Oradour-sur-Glane, parce que pour moi, c'est quelque chose d'important de transmettre l'histoire et tout ça et tout. Et je les ai aussi emmenés parce que je me suis dit, là-bas, au Québec, on va être loin de cette réalité. On va être loin des champs de guerre, des horreurs qu'il y a eu, et je veux pas que vous oubliez, je veux que vous sachiez. Et en fait, je pensais pas retrouver des choses, malheureusement, assez proches, assez similaires. Alors, on peut parler de volume, on peut parler de nombre, tout ce que tu veux et tout, mais dans l'approche, assez similaire, parce que tu disais tout à l'heure, et j'aime bien parce que c'est pas dit beaucoup, tu disais, pendant que le pape vient, on va venir expliquer pourquoi il est venu, mais il vient pour s'excuser, le gouvernement fédéral se planque et il fait pas cuicui. Et effectivement, il fait pas cuicui, parce que là aussi, Michel Jean le décrit très bien, lorsque pour nombre de familles, lorsqu'au premier été, on leur restituait les enfants, parfois on leur apprenait que « Ah bah, on vous en a pris deux, mais on vous en rend qu'un. Ah bah, il est mort il y a 6 mois. » Pas de corps, rien, pas d'explication et tout. Évidemment que ces parents-là demandaient des explications. On parlait de gendarmerie, d'une gendarmerie qui avait été créée. Voilà, ils demandaient les informations comme quoi il y avait des choses bizarres qui devaient se passer et remonter au fédéral, qui n'en avait visiblement strictement rien à foutre. Ou au pire, on pouvait considérer que ça rentrait dans leur politique. Je rappelle, il faut tuer l'Indien dans l'enfant. On peut dire qu'il y avait peut-être un léger raccourci. Ça, tout ça, effectivement, ça m'a beaucoup surpris de le retrouver. Et en fait, au début, et j'ai compris grâce à toi aujourd'hui que je me suis probablement trompé, je me suis dit que c'était ce genre d'événement qui avait probablement engendré, je veux dire, le désamour, la déconnexion entre l'Église et le peuple québécois, mais pas du tout, en fait. C'était l'IA avant. Cette histoire-là, elle est propre aux autochtones.
Tout à fait, exactement. Ouais. Et elle est parallèle, en fait. Elle est parallèle à l'histoire des Québécois de souche, entre guillemets, avec l'Église, qui a encore une autre histoire, en fait. Qui a encore une autre histoire. Mais qui est une histoire aussi, pour certains, enfin, qui sont allés dans les écoles religieuses, etc., qui n'était pas forcément toujours une histoire très drôle. Hein, mais effectivement, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, un autre rapport à la religion. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a frappé, nous, on a fait un reportage dans la communauté de Machtoyach, d'où est issue d'ailleurs une partie de la famille de Michel Jean. Donc, on a publié ce reportage aux pèlerins en amont du voyage du pape au Canada. Et en fait, certains autochtones, en dépit de cela, ne se sont pas détournés forcément de la religion.
Et c'est ça qui est fou. Enfin, pour moi, c'est ça qui est fou, mais qui est aussi passionnant. Si c'était détourné de la religion, c'est-à-dire que moi, je me dis, ouais, effectivement, pas un secret de polichinelle, je suis pas religieux. Ceci étant dit, moi, de prime abord, en observateur, je me dis, mais quelqu'un qui a vécu une telle trahison, une telle douleur par rapport à quelque chose qui est une vraie, je veux dire, une conviction, une croyance forte, enfin quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. Je me dis, bah, si tu me fais ça une fois, mais plus jamais. Je veux. Et en fait, non. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont allés demander au pape et qui les a reçus, parce qu'il ne reçoit pas tout le monde quand même. Hein,
tout à fait.
Sont allés parce que ils avaient besoin de ce pardon-là, parce qu'ils y croient encore, parce que ça a du sens. Ça prouve bien. Tu disais tout à l'heure à quel point la spiritualité est importante et qu'ils ont vraiment pris la religion catholique comme une spiritualité complémentaire, un peu comme toi et moi, on se nourrit de rencontrer des gens d'autres cultures, ainsi de suite. Ça n'est que du plus, ça vient nous nourrir. Eux, pareil, ils ne sont pas détournés, ils avaient besoin d'un pardon, et effectivement, le pape, dont je pense que c'est un secret de polichinelle, on ne peut pas dire qu'il soit en grande, grande forme et qu'il a ralenti le nombre de ses déplacements, a fait l'effort de les accueillir et après de venir ici.
Tout à fait. C'était alors important. Il a annulé au mois de juin, il devait se rendre en Afrique et ou tout début juillet, avant son voyage au Canada, et il a annulé le voyage en Afrique et il a maintenu le voyage au Canada. Donc, c'était vraiment, effectivement, comme tu le dis, quelque chose de très important. Et en creux, ça interroge sur... Parce qu'on sait que les peuples autochtones ont une spiritualité très développée. En creux, ça interroge sur la place de la spiritualité dans le reste de la société québécoise ou même plus largement canadienne, qui, de ce point de vue-là, peut apparaître comme une société quand même avec une présence de la spiritualité quand même assez faible, finalement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont très, comment dire... séduisante hein, dans la personnalité et la complexité de l'identité québécoise et canadienne. C'est vrai que la dimension spirituelle, c'est pas ce qui frappe au premier abord.
Clairement, c'est pas. Et tu le disais tout à l'heure, la dimension historique.
Tout à fait.
Je sais pas si les deux sont liés, peut-être probablement, mais
Peut-être, peut-être.
Tellement tourné vers l'avenir que...
Voilà, tellement tourné vers l'avenir. Après, dans le modèle de société, et là, on a une vraie différence entre le Québec et le reste du Canada, on a quand même d'un côté une société québécoise qui a cherché à inventer un modèle de laïcité, tu disais, assez proche du modèle français, avec quand même des différences, je trouve. Enfin, parce que, ben, évidemment, enfin, c'est, il n'y a pas eu une loi de séparation de l'Église et de l'État comme chez nous en 1905. Et donc, il y a eu le besoin, au fur et à mesure de la sécularisation de la société, d'affirmer des choses. Et puis, en même temps, un reste du Canada qui, de par sa dimension multiculturelle, veut accepter toutes les religions. Faire sa place à toutes les religions, considérant que c'est quelque chose qui relève de l'individu et qui ne doit pas être un facteur discriminant. Et aujourd'hui, on voit quand même au sein du Canada, un Québec avec une loi 21 sur la laïcité faite par le gouvernement Legault, premier mandat, attaqué par d'autres provinces, voire par le fédéral, qui reproche au Québec, par exemple, d'interdire à des jeunes femmes devenues professeurs d'enseigner avec un voile, en portant un voile. Et donc là, on sent bien qu'il y a aussi une extrême sensibilité au Québec sur la place de la religion dans l'espace public, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les Québécois ont sorti la religion de leur vie sociale, il y a vraiment une extrême sensibilité au fait qu'elle ne doit réapparaître sous aucune forme, quelle que soit la religion, que ce soit la religion catholique ou d'autres religions. Et là, il y a une incompréhension et quand même un fossé qui se creuse en ce moment, hein, je trouve, oui, entre le Québec et les autres provinces canadiennes sur cette question-là. Alors, à un moment, les choses se sont tassées avec les fameux accommodements raisonnables, qui sont quand même quelque chose de très spécifique, mais là, on sent que ça se durcit quand même. On sent que
ça s'est durci. Moi, ça fait aussi partie des choses que je n'avais pas forcément senti ou ressenti. Effectivement, tellement la religion est peu présente et tellement pas un sujet. En fait, on n'en parle pas, donc ça n'est pas émergé. Et en fait, c'est à l'occasion de l'assassinat de Samuel Paty en France que le clivage entre le Canada, François Trudeau, pour faire court, et le Québec, François Legault, est apparu, parce que les deux réactions ont été parfaitement antinomiques. Ça a créé à la fois un incident diplomatique d'un côté et d'autre côté une opportunité politique.
Tout à fait.
Et c'est là où en gros François Legault était sur une ligne très française en disant la laïcité, toute la laïcité, rien que la laïcité. Et où tout de suite, par contre, Justin Trudeau, lui, a dit « Oh là, attention, toi-même, il faut quand même comprendre, il y a des trucs qu'il faudrait mieux pas dire. Ouais. » Et ça avait créé et c'est là où j'ai compris que intellectuellement, dans l'approche, politiquement, on est sur deux sociétés différentes.
Ah ouais, et sur deux modèles complètement différents. Et là, c'est intéressant parce que pendant longtemps, on s'est dit que voilà, ce qui séparait finalement le Québec du reste du Canada, d'abord, c'était le fait francophone versus le fait anglophone. Et là, on voit qu'il y a quand même un point vraiment de crispation très fort hein, sur cette question de la laïcité, qui est un mot qui a même, enfin voilà, c'est vraiment laïcité versus multiculturalisme et les deux ne peuvent pas se rencontrer en fait. Les deux ne peuvent pas se rencontrer. Et je dirais même que d'une certaine façon, quelque part, pour le coup, le Québec a... Nous, on a beaucoup de mal à réfléchir en France à comment la laïcité peut évoluer dans un pays qui, justement, n'est plus un pays de catholiques pratiquants, mais qui est un pays encore de catholicisme culturel, mais avec une deuxième religion qui monte en puissance, qui est la religion musulmane, l'islam. Et on a beaucoup de mal à réfléchir ça, alors que le Québec, après, on peut considérer qu'ils l'ont bien fait ou qu'ils l'ont mal fait, mais à un moment à vraiment poser le sujet sur la table en disant voilà, nous qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, quoi, et comment on se positionne avec ça. Mais là encore, c'est le privilège d'un pays jeune qui n'a pas un siècle d'histoire derrière séparation douloureuse de l'Église et de l'État, par exemple, avec en France tout ce qui s'est passé fin du 19e et début du 20e.
Oui, avec en plus un pays qui a parmi ses sujets récurrents, bah, celui de la séparation, l'indépendance. Voilà, c'est le fil rouge un peu de l'histoire politique du Québec, mais qui revient, mais qui fait que cette histoire de couper les ponts, d'une manière générale, avec quoi que ce soit, avec qui que ce soit, n'est pas un sujet tabou. C'est au contraire presque le seul et unique sujet autour duquel tout s'agrège, les questions religieuses, d'éducation, de santé, enfin un petit peu tout ça.
Mais quand même, pour rappeler quand même l'importance qu'a eu quand même le catholicisme, il faut rappeler quand même que bon, tu connais un peu l'organisation des écoles au Québec, avec les commissions scolaires. Francophones, anglophones, etc. Pendant très longtemps, il y avait les commissions scolaires. C'était commission scolaire catholique, en fait. Et la commission scolaire catholique de Montréal, elle a existé jusque dans les années 90. Et il y a eu un certain nombre de recours, etc., pour mettre fin à cette commission scolaire catholique et pour faire que ce ne soit plus, enfin, que le système scolaire ne soit plus marqué par une appartenance religieuse. Et il y a une chose qu'on a oublié de dire aussi sur pourquoi la religion catholique, bon, c'était évidemment celle des colons français, mais c'était celle aussi des Irlandais. Et il y a eu beaucoup d'Irlandais qui sont venus aussi. Donc, des immigrants irlandais, à partir du moment où les Anglais ont gagné et où ils ont développer leur propre colonisation et envoyer leurs propres colons, on sait qu'il y a des immigrants irlandais qui sont venus au Canada. Et donc, eux aussi, ils portaient la religion catholique. Donc, il ne faut pas oublier que il y en avait aussi chez les anglophones de la religion catholique, pas majoritairement, mais il y en avait aussi. Donc, ça a aussi traversé la société québécoise de cette façon-là, en fait.
Et c'est vrai, t'as raison, ça fait clic dans ma tête, parce que quand les Anglais gagnent les plaines d'Abraham, et donc gagnent le Québec, il y a quand même encore une forte opposition et résistance de la part de la population francophone, qui ne veut pas perdre son français, qui ne veut pas perdre son identité. Et les Anglais, à ce moment-là, ont l'intelligence de dire « Bon, ok, on a gagné, mais nous, ce qu'on veut, parce qu'on est des pragmatiques, ce qu'on veut, c'est faire du business, faire du commerce, donc on a besoin qu'ils soient un minimum coopératif, donc on va lâcher des brides et on va, dans un premier temps, garder le droit de Paris, par exemple, qui va s'appliquer au Québec, et faire quelques concessions comme ça, et notamment, pas se retirer complètement, mais mettre un petit peu de distance. Sauf que cette distance, elle a été comblée par l'Église. Donc, l'Église leur a permis aussi, entre guillemets, de pouvoir continuer à observer, à gérer, à être là, tout en prenant la distance qui permettait aux Québécois de continuer à se sentir Québécois.
Un petit peu chez eux.
C'est ça.
Quand même.
C'est...
Tout à fait. Ouais.
C'est vraiment très étonnant. C'est vraiment très étonnant. La richesse de l'histoire de la religion au Québec. Juste pour terminer, comme je sais que tu as fait pas mal d'articles et de suivis, notamment à l'occasion de la visite du pape, est-ce que tu sais si les autres religions, tu parlais de l'islam qui est... qui doit être la deuxième religion en France aujourd'hui, ou peut-être même la première d'ailleurs, je ne sais pas. Est-ce que tu sais quelle est la place, ou la non-place d'ailleurs, des autres religions au Québec ?
Alors, au Québec, j'avais regardé aussi un petit peu et puis c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est des questions qu'on se pose finalement pas beaucoup, parce que, comme tu le disais, les religions sont tellement peu importantes. En gros, au Canada, parce que il y a les statistiques de Statistique Canada. Au Canada, c'est à peu près 53% de la population qui s'identifie comme chrétien et 5% qui s'identifie comme musulman. Donc, c'est quand même 10 fois moins, tu vois. Donc, il y a quand même et plus d'un tiers qui disent n'avoir aucune appartenance religieuse. Mais s'identifier comme chrétien, c'est pas forcément être pratiquant, c'est pas forcément être voilà. Donc ça c'est au Canada et au Québec on serait plutôt sur du mais je vraiment les chiffres avec des pincettes parce que je pense que c'est ceux de 2021 comme pour le Canada mais j'ai un tout petit doute. On serait sur à peu près 80% qui disent relever ou s'identifier au christianisme. Et 3% environ à l'islam. Donc, on voit que c'est quand même, il y a quand même une différence massive. Après, on sait que aujourd'hui, avec l'immigration qui augmente, enfin que en tout cas que le fédéral veut faire augmenter, on sait que la diversité des religions, elle est inéluctable quelque part, parce que les pays d'immigration principaux, c'est évidemment pas la France, même si vu de France, on a l'impression que tous les Français qu'on croise ont rêvé un jour d'aller au Canada et ont tous un cousin, une sœur, un frère qui a immigré. Les principaux pays, entre guillemets, qui fournissent les immigrants au Canada, c'est l'Inde, la Chine, enfin voilà, des pays éventuellement du Moyen-Orient, etc. Et au Québec, il y a évidemment plus d'immigrants francophones, mais avec un certain nombre qui viennent d'Afrique du Nord, par exemple, du Maghreb. Voilà. Donc, forcément, progressivement, ça change la physionomie, mais très lentement. Et il y a une dernière chose quand même qui est très frappante par rapport à ça quand on parle du Canada. Voir, par exemple, un premier ministre canadien aller fêter avec les différentes communautés religieuses leurs fêtes importantes, hein, que ce soit avec les Sikhs ou les musulmans, y compris en adoptant, j'ai envie de dire, l'habit traditionnel. C'est quelque chose qu'on n'imagine même pas voir en France, par exemple. Et donc, effectivement, il y a cette volonté de dire que rien ne doit être discriminant, la religion comme le reste, et donc on doit accepter toute expression religieuse. Mais finalement, la religion prend pas tant de place que ça, même on le voit bien dans les médias. Enfin, je veux dire, c'est après il y a des événements, il y a l'attaque à la mosquée de Québec qui a énormément frappé. Je ne sais pas si tu étais déjà arrivé au Canada à ce moment-là.
Non, je n'étais pas encore arrivé, mais j'en ai entendu beaucoup parler parce qu'il y a eu le procès.
Il y a eu le procès où là, effectivement, enfin, c'était une espèce de, on sent bien les tensions qu'il peut y avoir sous-jacentes liées aux religions, en fait.
Mais, c'est vrai.
Il y a des espèces de manifestations comme ça, heureusement rares, et puis après ça disparaît.
On en parle très très peu. Je regarde énormément les informations ici, comme toujours d'ailleurs.
C'est pas un sujet.
Je me souviens très bien qu'en France, à chaque prise de parole plus ou moins importante du pape François, mais de toute autre autorité religieuse, il y avait toujours au moins un entrefilet dans le journal, quelque chose.
Bien sûr. Bien
ici, oui, on a parlé du pape François à l'occasion de sa visite. Basta, cosy. Quand il est parti, j'en ai plus entendu parler de suite. Je veux dire que le Québécois aujourd'hui serait bien en peine de dire où se trouve présentement le pape François.
Le pape François, ou, voilà, qui est à Bahreïn en ce moment, et en France, on en parle.
Voilà, bah ici, on n'en parle pas du tout.
Bien sûr,
du tout. C'est effectivement ce que tu disais. Bon, pourquoi je reviens à cette phrase de Coluche, c'est comme le sucre dans le lait chaud, on cherche et moi on le trouve. Voilà, c'est partout, c'est absolument partout. Ouvrez les yeux, vous verrez, regardez les noms de rue, regardez l'histoire, écoutez les mots et vous verrez que la religion...
Oui, les récits, enfin les livres, je ne sais pas, même Maria Chapdelaine, ou, enfin voilà, les livres qui racontent ce qu'était le Québec... jusqu'au 19e, au milieu du 20e siècle, quoi. Effectivement, c'était tellement, tellement présent.
Voilà. Et aujourd'hui.
C'est un fantôme aujourd'hui.
C'est ça. On est passé de. Moi qui dis souvent qu'on est un peu à la Goldman, on est entre gris clair et gris foncé, ben là, on est un peu passé du noir au blanc ou du blanc au noir. Hein. Je choisis la couleur, mais vraiment d'un imposé, non. Extrêmement présent à extraordinairement absent. Il nous reste que les traces résiduelles. Voilà. Mais ça montre bien, je trouve que ça en dit énormément de ce qu'est la société québécoise, de ce que sont les Québécois, de leur manière d'appréhender leur propre histoire, même si elle est courte, d'appréhender leur avenir et d'appréhender aussi leur présent. Valérie, j'ai appris énormément de choses encore aujourd'hui. C'était trop bien.
Merci Jean-Michel de cet échange. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié ce dialogue, parce que c'était plus un dialogue que tu en sais beaucoup aussi maintenant que tu vis au Québec. Donc, tu as le privilège de l'observation quotidienne et de l'expérience quotidienne. Donc, c'était passionnant de discuter ensemble et merci de ton invitation.
Ah bah avec plaisir. Moi, j'observe, mais au moins, toi, t'expliques. Ça change tout. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui n'ont pas suivi mon conseil en introduction, je leur dis, ils peuvent te retrouver et retrouver tes papiers. Bon, c'est exactement, ça me ferait prendre le terme qu'on utilise dans le journalisme en France, des papiers que tu envoies régulièrement pour parler de l'actualité canadienne et québécoise. C'est sur Attache Tatuc. Voilà, je mettrai évidemment tout le lien, toutes les informations en commentaire. Tu nous as parlé d'un livre que tu as écrit il y a quelques années.
Oh, il y a vraiment beaucoup d'années. On le trouve plus, si ce n'est d'occasion. Ça s'appelait Irréductible Québécois et il était sorti en 2005. Donc là, il y a prescription. Il y a prescription. Mieux vaut lire Attache Tatuc qu'on retrouve sur la plateforme Substack. Donc c'est attachetatuc.substack.com. Et effectivement, qu'on peut recevoir directement dans sa boîte courriel, mais on peut aussi consulter les articles sur le site.
Et franchement, regardez ça, parce que si vous vous intéressez au Québec simplement par curiosité, alors là, votre curiosité, elle va être nourrie, elle va être alimentée, mais encore plus si vous envisagez de venir ici pour plus ou moins longtemps, pour vous y installer, parce que ce pays vous attire et que vous avez envie d'y refaire votre vie. C'est bien de pouvoir comprendre exactement avant ce qui se passe, d'avoir aussi les référents culturels qui nous manquent tellement quand on arrive ici, et comment il s'appelle le Premier ministre et comment ça fonctionne l'État canadien, pourquoi c'est quoi un État fédéral, un État provincial, enfin toutes ces choses-là et les parties historiques. En suivant Attache Tatuc, c'est exactement ce que vous obtiendrez assez facilement. Vous en recevez 3-4 et vous avez déjà un niveau de culture qui... de vous à moi, dépasse beaucoup celui de pas mal de personnes. Voilà. Valérie, je te remercie énormément. Et puis, je sais pas pourquoi, mais c'est pas impossible qu'on se réinvite un de ces quatre.
Merci beaucoup, Jean-Michel.
À très bientôt. Ciao, ciao. Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants, tout ça vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancée très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh bien, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Faitufrette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, faitufrette. À commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. Bah, j'avoue, c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Faitufrette, faitufrette, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.